BPM. Élections législatives 2022.
Et bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre sur BPM, le second tour des élections législatives aura lieu dimanche 19 juin. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales où nous recevons les deux candidats qualifiés sur la 5e circonscription de l'Eure. Et aujourd'hui, nous recevons Timothée Houssin, candidat donc de la 5e circonscription de l'Eure pour le Rassemblement National, ressorti en tête du premier tour. Timothée Houssin, bonjour.
Bonjour.
Alors Timothée Houssin, vous avez 33 ans, vous êtes assistant parlementaire auprès de la députée européenne Annika Brunat et vous êtes également conseiller régional de Normandie ainsi que le responsable départemental de l'Eure du Rassemblement National et votre suppléante se nomme Laura Ponty. Alors avant de revenir un petit peu sur tout ce qui se passe, on va quand même forcément revenir sur les résultats du premier tour. Tout d'abord, au niveau national, la majorité présidentielle Ensemble est ressortie en tête, suivie de près par NUP, et puis un peu plus loin, un peu plus en retrait, le Rassemblement National. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces scores au niveau du pays ?
Eh ben moi, j'en suis assez satisfait de ces scores au niveau du pays, et je relativise aussi, si je puis dire, le score de nos adversaires. Finalement, 25% pour les députés d'Emmanuel Macron. Quand pour un président sortant qui vient d'être réélu, si on regarde par rapport à l'histoire des élections législatives, c'est finalement relativement faible. Et puis ça place un nombre important de ces députés en difficulté. On a vu des ministres sauter dès le premier tour. On a vu dans notre département Bruno Ketel, qui était quand même un porte-parole du gouvernement, sauter dès le premier tour. Donc il n'y a pas d'adhésion massive des électeurs au projet d'Emmanuel Macron. Le score de la NUP ou NUPES, c'est-à-dire de l'alliance autour de Jean-Luc Mélenchon, et on nous le vend comme étant une extraordinaire percée, mais je rappelle que la gauche ensemble unie aux législatives, tous les candidats de gauche qui ne fassent entre guillemets que 25%, c'est quasiment un score historiquement faible. Ces mêmes tendances politiques aux élections présidentielles, il y a quelques semaines, rassemblaient une trentaine de pourcents au premier tour, donc il n'y a pas tant de dynamique chez eux, et puis je pense qu'ils vont faire face à un véritable barrage face au danger des propositions qu'il représente au second tour. À l'inverse, pour moi, le Rassemblement National est dans une bonne dynamique. On faisait aux élections législatives de 2017 13,5%. On fait cette fois 19%, c'est-à-dire qu'on gagne environ 40% d'électeurs par rapport à il y a 5 ans. Donc on est la seule force politique qui est vraiment en progression. Et puis on fait face à des coalitions, c'est-à-dire que en termes de partis, le parti Rassemblement National à lui seul rassemble probablement plus que d'autres partis. Et puis bah, ces scores au niveau national, ils sont parfaitement encourageants puisqu'ils nous qualifient au second tour dans plus de 200 circonscriptions et ils nous donnent des véritables perspectives de victoire. On le voit notamment dans l'Eure où on est arrivé en tête dans l'ensemble des circonscriptions et où on peut l'emporter dans la plupart d'entre elles.
Justement, au niveau local, on va parler forcément de cette circonscription, la cinquième, des résultats différents, comme vous venez de le dire. Vous êtes ressorti en tête avec un peu plus de 29% devant Ensemble, qui a un peu moins de 28%, et puis on a NUP à 20%. Ces résultats, vous en êtes satisfait de ces résultats ?
Oui, on en est très satisfait. On remercie les électeurs qui se sont déplacés aux urnes. On ne pensait pas, franchement, arriver en tête dans cette circonscription. On est très satisfait d'être parvenu à ce résultat et puis c'est un score qui est réellement porteur d'espoir parce qu'on fait de très loin notre plus haut score historique au premier tour sur cette circonscription. Or, c'est une circonscription qui nous a toujours donné de très bonnes perspectives au second tour. Il faut se rappeler qu'en 2017, on faisait 21% en premier tour, qu'on atteignait quand même 44% au second en progressant de 23 points entre les deux tours. Donc aujourd'hui, bah, si on progresse à nouveau de 23 points entre les deux tours, on l'emportera dimanche. Donc nous, nous appelons les électeurs à réfléchir. Un grand nombre d'entre eux n'ont pas choisi de porter leur suffrage sur le candidat d'Emmanuel Macron. Et le second tour sera un référendum. Est-ce que vous voulez un député supplémentaire pour la politique d'Emmanuel Macron ? Je crois que c'est un peu la question qu'on peut poser aux électeurs de la NUP, ce mouvement qui est arrivé troisième dans la circonscription avec un peu plus de 20% des voix. La question est de savoir, est-ce que vous voulez envoyer un député supplémentaire d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale ce week-end ou non ? Et puis, on a aussi des candidats dont les programmes étaient relativement proches des nôtres. Je pense aux candidats de LR, je pense aux candidats de Reconquête, je pense aux candidats de Debout la France, qui ensemble au premier tour ont fait une petite quinzaine de pourcents si on les additionne, et des électeurs qui doivent bien se rendre compte que nos propositions sont très proches de celles qui étaient celles de leurs candidats et que c'est nous qui représentons le mieux leurs idées sur la circonscription. Donc si toutes ces personnes s'allient, nous pouvons l'emporter. Et puis nous estimons aussi disposer d'une réserve de voix, puisque on fait d'excellents scores en pourcentage, mais si on observe en nombre de voix, je totalise sur ma candidature au premier tour 12 500 voix dans la circonscription, là où Marine Le Pen au premier tour en totalisait quasiment 22 000. Donc on a aussi un certain nombre d'électeurs de Marine Le Pen des élections présidentielles qui ne se sont pas déplacés dimanche dernier, parce que bien souvent le mode de scrutin des législatives nous est défavorable, il n'y a pas toujours d'espoir de victoire, il n'y a pas toujours d'enjeu national, puisque parfois les présidents qui viennent d'être élus sont à peu près certains d'obtenir une majorité. Et là, on a des perspectives qui sont très différentes. On a un enjeu national qui est très important, parce qu'Emmanuel Macron est loin d'être sûr d'obtenir une majorité. Je dirais même qu'il est franchement en danger. Et puis, dans cette circonscription, on a des chances réelles de victoire. On a un scrutin qui va être probablement très serré. Donc, chaque voix va compter. Et ça peut mobiliser un certain nombre de personnes qui s'étaient déplacées pour les élections présidentielles, qui n'ont pas toujours l'habitude, finalement, d'aller voter aux élections législatives et qui, au vu de l'enjeu et du contexte, pourront cette fois-ci peut-être se déplacer et nous permettre de battre de quelques dizaines ou centaines de voix le candidat de la Macronie et de Sébastien Lecornu.
Justement, il y a la grande ville de la circonscription ici à Vernon. Vous étiez quand même plutôt loin de François Zio notamment. Comment est-ce que vous l'expliquez et est-ce que vous pensez vraiment faire bien mieux qu'au premier tour pour ce second tour?
Alors Vernon, dans la circonscription, c'est pas la généralité, c'est plutôt l'exception. C'est-à-dire que malgré les scores relatifs pour nous à Vernon, nous arrivons en tête, puisque dans toute la ruralité alentour, les électeurs nous ont fait confiance, nous ont souvent dans les villages placés nettement en tête, parce qu'ils savent très bien que le Rassemblement National est le seul mouvement qui les défendra à l'Assemblée Nationale, et ils savent aussi que c'est pas la politique d'Emmanuel Macron qui va être la meilleure pour les défendre. François Ouzillot est maire de Vernon, c'est ce qui lui permet probablement aussi de faire un meilleur score dans ce secteur. C'est probablement pour ça que La République En Marche a choisi de débrancher son exécrable ancienne députée qui était Madame Aupetit. Bon, effectivement, comme tout maire dans sa ville, il réalise plutôt un bon score. La question est de dire aussi que à tous les gens qui s'illusionnent en pensant qu'avoir un député qui est le maire de Vernon, ça va donner beaucoup à la ville de Vernon, rappelons bien qu'un député, il est là pour voter les lois nationales. Je le dis notamment à un certain nombre d'électeurs de la NUP qui pourraient être tentés de se rabattre sur le maire. Il n'a aucun pouvoir, il n'y a plus d'enveloppe parlementaire, donc il n'a pas de fonds non plus à dédier à la ville ou au secteur. Il ne se fait que l'écho des problématiques de la circonscription auprès de l'Assemblée nationale. Et il vote pour ou contre des lois, il propose d'y apporter des modifications en fonction de l'intérêt national et en écho des problématiques qu'il rencontre dans sa circonscription. Mais s'illusionner en pensant que le maire de Vernon, parce qu'il sera devenu député, va pouvoir faire davantage pour le secteur géographique, je pense que c'est un argument mensonger de la part de nos adversaires et c'est totalement faux.
Passons à ce second tour dimanche avec la dynamique de ce second tour. On sait que Marine Le Pen, notamment aux dernières élections présidentielles, était ressortie à nouveau en tête au second tour ici sur la circonscription. Alors comment est-ce que vous abordez cette fin de semaine cruciale pour ce second tour des législatives ?
Alors tout à fait, on a justement démontré à l'occasion des élections présidentielles que le fameux plafond de verre, l'impossibilité du Rassemblement National de gagner en duel sur un territoire géographique de la taille d'une circonscription, notamment dans un département comme l'Eure, n'existait pas, qu'on pouvait l'emporter sur la circonscription. Au second tour des élections présidentielles, Marine Le Pen avait totalisé plus de 51% des voix. Elle l'avait donc emporté. Il y a donc une majorité d'habitants de la circonscription qui préfèrent le Rassemblement National à la politique d'Emmanuel Macron. À eux maintenant de se mobiliser et d'aller voter. Ça va être notre perspective dans ce contexte de second tour, aller à la rencontre d'un maximum de personnes, convaincre un certain nombre d'abstentionnistes de se déplacer aux urnes et aussi les gens qui se sont déplacés au premier tour, de ne pas donner en fait une majorité absolue à Emmanuel Macron. Il faut qu'ils pensent à l'avenir de leur retraite, à la situation en termes d'immigration, d'insécurité, à la paupérisation, notamment en ruralité, qui paye toujours la ruralité autant d'impôts et qui bénéficie de toujours moins de moyens, de la désertification médicale. Monsieur Lecornu est à la tête du département depuis maintenant un certain nombre d'années, sans qu'il ne solutionne le problème du fait qu'on soit le dernier département de France en nombre de médecins par habitant. Donc il est temps pour nous de changer de politique, c'est ce que nous voulons expliquer aux habitants, nous voulons les représenter au mieux à l'Assemblée nationale, et nous allons surtout aller à leur rencontre dans cette dernière semaine.
Alors, on a vu encore une fois un fort taux d'abstention dimanche pour le premier tour, et notamment chez les plus jeunes, chez les 18-35 ans, qui semblent ne plus croire en la politique. Pour quelles raisons, selon vous, et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aillent voter dimanche ?
Je pense qu'il y a un mode de scrutin qui relève quelque part de l'escroquerie. Si on fait les projections du premier tour en termes de répartition à l'Assemblée nationale, on s'aperçoit que le Rassemblement national aurait plus de 130 sièges pour faire défendre ses idées. On a donc un mode de scrutin qui n'est pas forcément motivant pour les Français, et effectivement des gens qui parfois ont l'impression qu'aller voter n'a plus d'influence réelle, qu'ils ne peuvent plus changer la politique. Il y a parfois aux législatives une sorte de fatalité qui consiste à dire que le président a gagné les élections présidentielles et que par définition il gagnera les législatives. Je pense qu'on peut démontrer dimanche prochain que c'est faux. Les sondages d'ailleurs le montrent, il n'est pas certain qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité. Et puis il faudra ensuite peser aussi à l'Assemblée nationale, démontrer qu'avoir des députés différents ça sert à faire des propositions, ça sert à s'opposer aux politiques les plus néfastes pour remettre à nouveau les jeunes aux urnes. Nous on pense qu'il faut aussi globalement changer la fonction dont fonctionne la politique. Je pense que le fait que, par exemple, que Monsieur Ouzillot soit un jour LR, puis le lendemain soit devenu macroniste, entre deux soit un peu ensemble pour l'heure, sans vraiment d'étiquette, ne favorise pas la participation des jeunes aux élections. Ils ont parfois, je pense, l'impression d'être floués. Et puis, il faut rendre davantage de parole aux électeurs et notamment aux jeunes. Nous pensons qu'il faut remettre en place sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets par exemple sociétaux, des référendums, c'est-à-dire que le gouvernement ne doit pas utiliser uniquement l'Assemblée nationale mais doit aussi consulter la population sur des sujets qui sont un peu transversaux et qui traversent entre guillemets les partis. Et puis il faut permettre aux citoyens de se saisir d'un certain nombre de questions. Ça avait été notamment une des revendications des Gilets jaunes avec le référendum d'initiative citoyenne. Nous souhaitons que les Français, à partir du moment où un certain nombre d'inscrits sur les listes électorales souhaite un référendum, puisse se manifester et que le référendum soit organisé en parallèle probablement d'une autre élection pour faciliter l'organisation, mais qu'on puisse consulter les Français lorsque ceux-ci le demandent sur un point précis du fonctionnement de la vie politique française.
Justement, ce référendum d'initiative citoyenne, comment est-ce que ça se traduirait ? Ce serait les citoyens qui viendraient vers vous et vous proposeraient des propositions de loi ?
Tout à fait. Alors, ils viendraient plus vers le gouvernement en lui-même que vers les députés. Mais effectivement, il s'agirait qu'un certain nombre de citoyens qu'on comptabiliserait par le fait qu'ils sont inscrits sur les listes électorales se manifestent probablement par le biais d'une inscription sur Internet qui resterait totalement anonyme, qu'ils puissent faire savoir qu'ils soutiennent, vous êtes par exemple, vous monsieur, à l'initiative d'une demande de référendum. Ça apparaît sur un site Internet dédié. Et vous pouvez faire campagne pour votre référendum. Les citoyens peuvent venir ajouter leur signature à votre demande de référendum. Et à partir du moment où on atteint, par exemple, 500 000 ou 1 million de signataires, qui commence à être un chiffre assez significatif, eh bien, cette question est posée aux Français à l'occasion d'une consultation qui se tiendrait en même temps que l'élection suivante, pour éviter d'avoir à rouvrir les bureaux de vote spécialement. Mais on est dans un pays où il y a grosso modo des élections chaque année, donc on prendrait par exemple à l'occasion des prochaines européennes en 2024, on pourrait à la fois voter pour les européennes et puis répondre à une ou pourquoi pas à plusieurs questions posées par les citoyens aux autres citoyens. Ça permettrait de rendre la parole au peuple, puisqu'il serait directement consulté sur ces sujets. Et puis, on parlait il y a quelques secondes d'abstention. Moi, je pense que si le jour où on demande aux gens d'aller aux urnes, on leur dit « vous allez voter en même temps pour les élections, par exemple, européennes, et pour différentes consultations extrêmement concrètes », je pense que ça va amener énormément de gens dans les bureaux de vote et qui voteront aussi en même temps pour leurs représentants. Donc, ça redonnera aussi de la représentativité et plus de démocratie dans notre pays.
D'ailleurs, justement, dans cette volonté de redonner confiance en la politique aux habitants du territoire, il y a cette volonté aussi de mettre la proportionnelle lors des élections législatives, c'est ça ?
Oui, alors on observe qu'en fait le découpage des circonscriptions correspond pas forcément à un bassin de vie. Concrètement, les habitants de Vernon ont pas forcément les mêmes problématiques que ceux de la vallée de l'Andelle. Nous, ce qu'on estime, c'est que avant tout, les élections législatives consistent à voter les lois et à représenter l'ensemble des Français, que chaque Français doit pouvoir être représenté. C'est d'ailleurs valable pour un certain nombre de petits partis qui se sont présentés dans notre circonscription. Hein. On peut penser à Reconquête, on peut penser au Parti Animaliste, on peut penser à Debout la France. Il y avait des écologistes indépendants. Enfin voilà, ces différentes tendances politiques doivent être représentées à l'Assemblée nationale, même si elles sont assez minoritaires, puisqu'elles représentent malgré tout des centaines de milliers de voix. Et puis, eh ben, la proportionnelle permet à chacun de s'exprimer, à chaque voix de compter, parce que vous avez des gens qui votent dans un secteur géographique où telle force politique est relativement affaiblie, mais ça ne veut pas dire que eux, leur choix ne doit pas compter. Et puis, il faudrait quand même, dans ce système de proportionnelle, une représentativité quand même des territoires. Donc l'idée serait peut-être de faire une proportionnelle, par exemple, départementale. On pourrait imaginer que les 5 sièges de députés du département de l'Eure, au lieu d'être voté par circonscription, eh ben en fait, soit voté sur un format de liste où chacun des habitants peut du coup être représenté. Ça donnerait une répartition, grosso modo, qui donnerait probablement 2 sièges au Rassemblement National, 2 sièges à la majorité présidentielle, et puis 1 siège à la NUP, ce qui semble assez représentatif, je dirais, de l'opinion que se font les rois de la vie politique.
Abordons un tout autre sujet maintenant, celui qui touche très particulièrement les Français et donc les habitants du territoire, c'est cette baisse du pouvoir d'achat et cette inflation qui ne fait qu'augmenter, 5,2% de prix en un an, tout augmente mais pas les salaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer ce problème ?
Déjà, il y a une vraie nécessité de recréer de l'emploi en France. La balance commerciale française est catastrophique et il n'y a pas de salaire sans création d'emplois. Ensuite, on a une problématique, c'est qu'énormément de gens, y compris de gens qui travaillent à plein temps, ont du mal à boucler les fins de mois, alors même qu'ils vont travailler et qu'ils bénéficient d'un salaire. Par conséquent, il y a quand même un certain nombre, nous identifions une centaine de produits de première nécessité, notamment alimentaires, sur lesquels il faudrait baisser, voire supprimer totalement les taxes pour permettre qu'ils soient plus abordables. C'est des produits dont les gens ont besoin au quotidien pour vivre. Et puis, il y a le coût de l'énergie qui devient totalement rédhibitoire. Notamment, c'est une désincitation au travail, puisque quand votre prix du gasoil est à 2,10 € à peu près en ce moment à la pompe, ça fait un impact sur le budget des ménages qui est énorme. Et puis, on est dans une région où énormément de gens se déplacent assez loin pour aller travailler quotidiennement. Dans un ménage, c'est parfois même les deux adultes du couple qui doivent prendre la voiture quotidiennement sur des trajets assez longs, et ça vient totalement impacter le budget des Français, alors même que le baril de pétrole lui-même est très très loin d'être à son niveau record. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur votre plein d'essence, vous payez quasiment exclusivement des taxes qui pourraient être diminuées sans nuire au budget de l'État, puisque il y a quelques années, avant cette envolée, l'État touchait moins qu'actuellement en termes de taxes issues du carburant. Donc nous, c'est d'ailleurs ce que nous avons proposé au Conseil régional, puisque la région a une part de taxes sur le carburant qu'elle perçoit, c'est diminuer ces taxes pour redonner en fait de l'air aux gens qui vont travailler, aux gens qui doivent se déplacer, puisque au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas forcément d'alternative à la voiture, notamment pour les ruraux. Il faut travailler à ces alternatives, mais il faut aussi une solution pérenne pour faire baisser le prix du carburant. L'échec qu'a proposé Emmanuel Macron n'était pas une solution pérenne, ça a duré quelques semaines. Le prix à la pompe est revenu à un niveau qui est excessivement plus haut, même qu'au moment de la mobilisation des Gilets jaunes. Nous pensons qu'il faut le faire baisser fortement, et en passant notamment la TVA à 5,5 sur ces produits, eh bien, en gros, les Français gagneraient une dizaine d'euros par plein, ce qui est déjà conséquent. Et on a la même problématique de coût de l'énergie, ça représente à peu près 90 € par ménage et par mois, pour l'électricité et le gaz. qui sont aussi des produits indispensables. Vous pouvez pas ne pas vous chauffer, vous ne pouvez pas ne pas vous éclairer. Quand vous faites du télétravail, vous avez bien besoin d'avoir un ordinateur et de l'électricité à la maison. C'est pas optionnel. Donc bien sûr, il faut faire des travaux favorisés, par exemple la rénovation, pour faire des économies d'énergie. Bien sûr, il faut faire une transition, essayer de quitter les chaudières au fioul vers des modes de chauffage plus vertueux. Il n'empêche qu'en attendant, on a plein de Français qui doivent bien vivre et continuer à vivre tranquillement. Et là aussi, un certain nombre de taxes sur l'électricité et sur le gaz pourraient être baissées. On subit un petit peu de plein fouet les conséquences du manque d'approvisionnement parfois en gaz russe. Et puis, on paye aussi le coût de l'éolien. L'éolien est excessivement cher par rapport notamment au nucléaire. Donc, nous pensons qu'il faut continuer à redévelopper au mieux notre énergie nucléaire, éviter les 25 milliards d'euros que l'État entend dépenser dans l'éolien et le mettre notamment dans la rénovation des bâtiments.
Alors pour conclure cette émission, on a un peu plus d'une minute pour conclure avec ce sujet de l'agriculture. On sait qu'on est situé dans un territoire très rural. Du coup, comment est-ce que vous comptez, vous, aider les agriculteurs qui sont aujourd'hui, pour la majorité, en difficulté ?
Bah déjà, il y a un vrai problème, c'est que les agriculteurs ne puissent pas toujours vivre de leur production et de la vente de leurs produits. Je pense qu'il y a un premier point à faire, c'est les aider vis-à-vis de la grande distribution qui parfois leur prend des marges extrêmement conséquentes par rapport à leur travail à eux qui est extrêmement important. Il y a aussi la nécessité de lutter contre une certaine concurrence déloyale. On voit par exemple des accords qui sont parfois en préparation de libre-échange avec des pays comme le Mercosur, dont les conditions de production ne sont pas du tout les mêmes, que ce soit en matière d'utilisation de pesticides pour les céréales ou d'élevage des bêtes. Donc essayer de les protéger de cette concurrence déloyale. Et puis apporter, lorsque c'est nécessaire, des subventions, des solutions aussi pour favoriser l'aide à l'exportation, parce qu'en Normandie, on arrive à exporter aussi une partie non négligeable de notre production pour les aider à vivre durablement et de façon pérenne de leur production. Je pense qu'il faut aussi, de manière générale, améliorer les conditions de vie dans la ruralité. Il n'est pas acceptable que la ruralité, dans son ensemble, paye finalement autant d'impôts que les autres pour bénéficier toujours de moins de services. Et nous défendrons à l'Assemblée nationale une dépense par habitant qui soit relativement équivalente entre un habitant de la ruralité et un habitant des villes, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Timothée Houssin, merci d'avoir accepté notre invitation.
De rien.
Cette émission sera rediffusée à 13h et à 18h30 et vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site bpmlaradio.com, rubrique podcast puis élections législatives. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élections législatives 2022.